Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire cette semaine, notre rendez-vous avec le magazine Books pour une chronique consacrée au roman classique japonais « Le Dit du Genji », une saga écrite par une femme au XIe siècle et dont nous parlera Baptiste Touvray. Mais pour commencer, à quelques jours de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, notre invitée est la romancière française Juliette Kahan, qui a publié aux éditions de l'Olivier un récit intitulé « Jour d'exil », un livre où elle restitue avec transparence les coulisses du lycée Jean Carré à Paris, où en 2015, environ un millier de réfugiés se trouvaient hébergés. Rencontre. Bonjour Juliette Kahan.
Bonjour.
Dans ce livre, vous racontez comment Anna, parisienne, découvre en 2015 qu'à 200 mètres de chez elle, un ancien lycée désaffecté héberge quelques centaines de migrants. Anna, disons-le, est votre double romanesque, car tout ce qui est décrit, senti, est inspiré de votre expérience dans cet endroit. Mais pour commencer, ce qui frappe immédiatement, c'est le fait de découvrir que cet endroit, qui est donc à quelques pas du domicile de la narratrice, lui était inconnu et que c'est l'une de ses amies qui l'y emmène pour la première fois. Alors je me demandais ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est parce que ces lieux de refuge sont cachés ou parce qu'on vit dans une telle indifférence qu'à Paris on ne les voit pas?
Je pense que c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'en effet, les réfugiés, les migrants qui arrivent dans une ville comme Paris, ils sont en général cachés, sauf quand leur regroupement devient tellement important qu'on peut plus les ignorer. À ce moment-là, en général, ils sont évacués ailleurs. Mais c'est aussi, malheureusement, et Anna n'y échappe pas plus que ses voisins, c'est aussi une forme d'indifférence, mais justement dont elle va apprendre à se déprendre, si je peux dire, en fréquentant ce lycée, et dont elle va voir. Et à propos de quoi, elle va voir qu'il y a plein de gens dans le quartier, et pas seulement dans le quartier, qui, eux, sont informés de ce qui se passe dans cet endroit.
Grâce au réseau Internet.
Grâce à Internet, grâce à Facebook, notamment, il y a des pages qui sont dédiées à cette occupation de ce lycée, et ça marche très très bien, c'est-à-dire que ça forme une espèce de réseau. Moi en l'occurrence et Anna ont découvert comment un réseau social pouvait avoir une utilité de ce genre-là tout à fait primordiale. Cet endroit n'aurait pas pu durer tout ce temps-là s'il n'y avait pas eu cet embryon d'organisation sur Internet.
Oui, c'est une chaîne très solidaire. Et c'est ce qu'on va découvrir au fil et à mesure du récit. Alors, ce lycée Jean Carré, donc ce lieu où vivent d'abord 200, puis très vite 400, 600, et à la fin on a l'impression qu'ils sont presque 1000 réfugiés, venus d'Afghanistan, d'Éthiopie, du Soudan, de nombreux pays africains, du Moyen-Orient, et d'ailleurs qui ne sont pas venus forcément pour les mêmes raisons. Et ça me donne l'occasion de vous poser une question, Juliette Kahan. Une parenthèse sémantique, est-ce que pour vous c'est la même chose que de dire qu'ils sont réfugiés, migrants, exilés ou pas ?
Alors, il y a quantité de discussions sur ces questions-là. Moi, j'ai pris le parti d'utiliser alternativement réfugiés ou migrants, parce que pour moi, un migrant, enfin ceux que l'on appelle les migrants économiques, sont aussi victimes d'un autre genre de guerre. Enfin, je simplifie un peu, hein, je peux pas rentrer vraiment dans les détails, mais disons que ce qui pousse un Soudanais, même qui n'est pas dans une région soumise à des guerres, à proprement parler, s'il décide d'encourir tous les risques qu'il encourt et de tout perdre, en gros, pour venir jusque dans nos contrées, c'est d'une certaine façon qu'il est quand même victime d'une forme de guerre aussi, oui. Par exemple, en Éthiopie, il y a des zones qui ne sont pas en guerre, enfin, c'est pas reconnu internationalement comme des zones en guerre, mais de fait, la vie y est, à la fois sur le plan de la pauvreté et sur le plan des persécutions, par exemple pour les Oromos, rend la vie extrêmement difficile.
Et qui explique les raisons de leur départ.
Qui explique pourquoi ces gens, la plupart du temps jeunes, tentent leur chance ailleurs, comme moi personnellement, je pense que je le ferais si j'étais dans leur situation.
Donc Anna, une fois qu'elle a mis les pieds dans cet établissement, finalement s'attache à cet endroit et elle décide de revenir tous les matins. Et elle va découvrir et nous raconter le fonctionnement quand même un peu aléatoire, hein, avec à la fois une forme d'autogestion où chacun s'occupe de soi-même, mais il y a aussi l'existence des bénévoles de soutien pour la restauration. Il y a une cuisinière pour l'apprentissage, certains apprennent le français. Et en fait, derrière les portes de ce lycée, vous écrivez, Juliette Kahan, « c'est un autre monde ». J'aimerais comprendre en quoi c'est un autre monde, puisque ce sont des gens comme vous et moi.
Ben, je pense que c'est un autre monde pour pas mal de raisons. L'une d'elles, c'est que ce sont des gens comme vous et moi, mais qui ont tout abandonné, tout laissé derrière eux. Et donc, ils sont pas du tout dans la même situation que vous et moi. Justement, je cite au début je mets en exergue du livre une phrase de Hannah Arendt qui vient d'un texte qui s'appelle « Nous autres réfugiés » et où elle dit justement « Nous avons perdu notre langue, nous avons perdu notre métier, nous n'avons plus de travail, nous n'avons plus nos amis, nous n'avons plus rien. » Donc voilà, nous sommes ailleurs, enfin nous sommes, voilà, c'est le sort des réfugiés. Fait de, ce qui est très difficile justement, c'est d'arriver dans un endroit comme celui-là ou comme tous les campements, et puis d'arriver à regarder les personnes qui sont là comme des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire à ne plus les voir comme des réfugiés, mais comme des individus avec une histoire, des gens sympathiques, des gens pas forcément sympathiques, voilà, enfin des personnes quoi, disons.
Et c'est d'autant plus vrai, Juliette Kahan, que vous abordez, à travers le regard d'Anna, des questions qu'on peut presque dire tabous. Oui, il y a des vols, oui, il y a des bagarres, oui, il y a des viols, oui, il y a des gens qui sont rackettés. Est-ce que c'est compliqué de décider qu'on va tout dire, même si ça ne fait pas plaisir à lire ?
Oui, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile parce que, évidemment, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont peut-être lu ce livre et qui désapprouvent ça, parce qu'il y a une sorte de... Il y a une idée comme ça qu'il faut surtout ne parler, présenter les réfugiés un peu comme des sortes de héros, de gens magnifiques, mais encore une fois, ils sont, enfin, comme vous le dites, ils sont comme vous et moi, donc parmi eux, il y a des tas de gens formidables, j'en ai rencontré plein, extrêmement courageux, y compris dans les efforts qu'ils font pour que le chaos dans cette surpopulation et dans cet endroit où rien n'est prévu pour pouvoir vivre, pour maintenir un tant soit peu d'organisation. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, profitent bien de la situation. Mais ceux-là, c'est pas forcément des réfugiés, c'est pas forcément des gens, ce qu'on appelle des primo-arrivants, des gens qui sont en train d'arriver, c'est plutôt des gens qui sont éventuellement là depuis très longtemps, ou même, peut-être pour certains qui sont nés en France et qui viennent là pour faire des petits trafics.
Oui, vous employez même le terme de mafia.
Voilà. Ah,
c'est des gens qui, quand ils apprennent l'ouverture d'un centre,
oui,
arrivent un peu comme des parasites et puis profitent de la situation.
Ils profitent. En tout cas, c'était le cas à ce moment-là, énormément de dons. Donc, il y a des accumulations de vêtements, de nourriture, des choses qui sont pas forcément utilisées. Donc, ils viennent se servir, ils vont les revendre ailleurs. Bon, ça, c'est, disons, pas le plus grave, mais moi, j'en ai pas été témoin direct, donc je dis ça un peu entre guillemets, mais apparemment, il y avait aussi à un moment des gens qui, par exemple, monnayaient des matelas. Comme les places étaient de plus en plus rares, comme c'était de plus en plus encombré, ça a pu arriver. Mais je pense que ce genre de choses-là était quand même très marginal et très mineur. En revanche, les bagarres, par exemple, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, et plus la surpopulation augmentait, plus c'était vrai, notamment les Afghans et les Soudanais, je ne sais pas pourquoi, ces deux communautés-là avaient du mal vraiment à s'accepter les uns les autres. Et d'ailleurs, ils disaient, on est trop différents culturellement et tout ça. C'était pas des affaires de religion, c'était plus des questions de
des
nationalité. Oui, je ne sais pas. En tout cas, il y avait des bagarres, oui, ça c'est vrai.
Autre question fondamentale que vous abordez et qui est énoncée ici par la cuisinière, voilà ce qu'elle dit. Ici, tout le monde cherche quelque chose. Fermez les guillemets. Ça veut dire autant les réfugiés que les soutiens, sous-entendu quoi ? De l'aide pour les uns et une bonne conscience pour les autres ?
Oui, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse beaucoup, Anna, c'est de... Bon, il faut dire qu'elle a un passé politique, c'est quelqu'un qui a été très engagé à une certaine époque de sa vie, qui ne l'est plus du tout, et qui donc, pour cette raison-là, est un peu sceptique. Et ce qui l'intéresse énormément, c'est de rencontrer dans ce lieu à la fois des gens très jeunes, souvent assez politisés, disons à l'extrême gauche, quoi, assez radicaux, des activistes, mais pas forcément. Il y a aussi des tas de gens qui sont simplement qui se connectent par Internet et qui veulent faire quelque chose de très concret sans avoir forcément des idées très précises. Enfin, ils n'ont pas de système idéologique, en tout cas. Pour venir là, essayer de faire quelque chose. Et puis, il y a aussi, en effet, le côté plutôt belles âmes, enfin, des gens dont on sent, ça se voit tout de suite, c'est pas la même chose. Des gens qui viennent là et qui donnent parce que ça leur fait plaisir à eux. Enfin, bon, ça, c'est de l'ordre un peu de la subjectivité. Je veux dire, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti.
Oui, mais en même temps, ça veut bien dire que ça pose aussi la question de comment aider sans tomber dans la compassion ni la charité.
C'est tout simplement le degré zéro de notre République, c'est-à-dire les droits de l'homme. Et le fait que c'est la chose qu'on partage, c'est la chose qu'on apprend à l'école, tous les hommes sont libres et égaux en droit, et le fait de voir que des gens, donc des êtres humains, quand ils arrivent dans un pays, quelles que soient les raisons de leur arrivée et quels que soient les problèmes que peut poser leur arrivée, eh bien, ils ont droit à être respectés comme des êtres humains. Et c'est pas une question de sous, c'est pas que ça coûte cher, c'est pas que, voilà, c'est simplement qu'il faut admettre le fait que, eh bien, des gens qui sont dans un endroit comme ça, entassés, ils ont le droit de pouvoir se laver, de pouvoir aller aux toilettes, de pouvoir se nourrir à peu près. Et ça, ce sont les droits fondamentaux. Il me semble que là, on est dans la politique, mais au sens la plus belle et la plus simple.
Alors après, la narratrice, après la citoyenne, je m'adresse à l'écrivain, parce que vous avez assez vite eu envie de prendre des notes,
oui,
d'écrire sur cette situation. Qu'est-ce qui vous a paru fondamental dans cet acte d'écrire ?
Ça pose plus de questions que ça ne donne de réponses, si vous voulez, ce livre.
Mais à quel moment vous avez senti que c'était un livre qui devait être publié ?
Je crois qu'à partir du moment où j'ai commencé à prendre des notes dans la cour du lycée, tout en faisant diverses choses, j'ai eu l'idée que ça pourrait faire un livre intéressant, à condition justement de ne pas enjoliver et d'essayer, autant que faire se peut, de ne pas tricher avec ce que je comprenais.
Aujourd'hui, le lycée a été évacué. D'autres centres existent dans Paris avec la même nécessité et les mêmes problèmes. Par exemple, en ce moment, il y a une épidémie de gale qui a été détectée dans un refuge. L'indifférence et la peur se sont accrues depuis les attentats de novembre 2015, même si les mouvements de réfugiés et la recrudescence du terrorisme ne sont pas liés. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Juliette Kahn, depuis, dans votre regard, après ces moments passés aux côtés de ces êtres déracinés ?
Ça a changé d'une part que même si maintenant je ne suis plus investie dans une aide aux migrants, aux réfugiés quotidiennement comme j'étais à ce moment-là, je suis quand même beaucoup plus attentive. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur ce qui se passe dans différentes parties du monde, comme l'Érythrée ou l'Éthiopie par exemple. Et puis aussi, comme Anna, je m'étais quand même mise tout à fait enfin, disons que les questions politiques ne m'intéressaient plus trop. Ça a d'une certaine façon ravivé un intérêt pour la politique à travers la rencontre que j'ai pu faire justement avec des gens plus jeunes que moi, pour la plupart, qui, eux, ont une autre façon d'appréhender la politique la politique au sens comment une personne s'investit dans une activité de ce genre, pas forcément en allant mettre un bulletin de vote ou en adhérant à un parti, mais comment, voilà, la politique, ça peut être quelque chose d'extrêmement concret, pratique, et évolutif aussi, et c'est pour moi quelque chose de nouveau et d'intéressant, et peut-être que j'ai réussi à le raconter un peu dans Jour d'exil.
Merci beaucoup, Juliette Kahn.
Je vous en prie. Merci.
Je rappelle le titre de ce livre, Jour d'exil, qui est apparu aux éditions de l'Olivier. Signore, cantando, signore.
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Bonjour Baptiste Touvray.
Bonjour.
À l'occasion de la publication du nouveau magazine Books, dont la couverture est consacrée au revenu universel, une idée à suivre, nous parlons avec vous d'un article consacré à un grand classique de la littérature japonaise, le dit du Genji, qui est un texte du XIe siècle, écrit par une femme. Alors, qui est cette japonaise qui a écrit ce classique de la littérature, qui est peut-être le premier grand roman de la littérature moderne?
Oui, c'est ça. Alors, c'est une question disputée, hein, quel est le premier grand roman, mais ça pourrait être celui-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il est écrit par une femme, parce que dans le Japon de cette époque-là, seules les femmes écrivent et lisent en japonais. Les hommes, eux, trouvent ça plus chic d'écrire et de lire en chinois. Donc, c'est pas la seule, il y a eu d'autres femmes de lettres japonaises.
Alors, on va citer son nom.
Et alors, son nom, c'est un surnom. C'est Murasaki Shikibu, et c'est un surnom qui est tiré d'un des personnages du roman. Ce roman raconte un roman
fleuve
énorme.
Il fait plus de 1300 pages.
Oui, réparti en une cinquantaine de chapitres. Le personnage le plus flamboyant de ce roman a donné son titre à ce roman, c'est le prince Genji, qui est un grand séducteur, un don juan japonais, et sa maîtresse préférée s'appelle Murasaki. Voilà, et donc c'est le nom qu'on a attribué à cet auteur.
Donc ça se passe à la cour de Kyoto, au XIe siècle, et on dit que c'est quoi? C'est l'amour courtois ou pas?
Alors, c'est compliqué, c'est tellement riche, c'est à la fois l'amour courtois et les liaisons dangereuses. C'est à la fois le raffinement le plus exquis, c'est-à-dire que c'est une civilisation qui a atteint un point de raffinement tel que il suffit que les hommes aperçoivent les manches d'une femme pour être complètement en émoi ou entendre simplement le froissement de la soie, parce que les femmes ne se montrent pas. Elles sont toujours cachées derrière des paravents, derrière des panneaux ou des rideaux, et il est inenvisageable qu'elles se montrent en plein jour debout devant un homme. Quand elles apparaissent, c'est toujours emmitouflées sur plusieurs couches de vêtements. Et la séduction obéit à des règles très particulières, c'est-à-dire que on écrit des poèmes sur du papier parfumé. Ce papier est lui-même transmis par un messager qui doit être beau. C'est une moralité très très particulière. C'est pas mal vu de séduire la femme d'un autre. En revanche, écrire un mauvais poème ou inscrire une calligraphie de façon un peu maladroite, ça c'est un crime. Les personnages, par exemple, sont jamais désignés par leur vrai nom parce que c'était quelque chose d'impoli. Et donc, dans ce monument de raffinement, on va pas commettre ce genre d'impair. Ils étaient désignés par leur rang. Hein. Vous imaginez que nous, ça ne nous évoquerait absolument rien, même pour le lecteur japonais moderne. C'est très obscur. Du coup, les traducteurs doivent trouver des astuces pour restituer ça, et pour restituer la fluidité qui existe aussi en japonais. Mais au-delà de ça, c'est un roman qui, dans la description des sentiments qu'il fait, nous parle toujours. Parce que on voit ces femmes qui... Les hommes, à l'époque, ont plusieurs femmes. Ils ont, en plus de leurs nombreuses femmes, des concubines. Donc, il y a des rivalités entre elles. Il y a la peur de perdre l'amour d'un homme. Il y a la peur aussi, quand on est introduit auprès d'un homme en tant que nouvelle épouse, de l'hostilité que l'on va susciter envers les épouses déjà en place. Et tout ça, c'est des sentiments qui nous parle toujours.
Donc à découvrir cette nouvelle traduction en anglais du dit du Genji, et je précise que en français, il existe une traduction mais qui date de 1977,
oui,
et qui est toujours d'actualité, parce que c'est vrai que c'est une aventure que de traduire ces 1300 pages à nouveau. En tout cas, c'est un texte dont on peut découvrir la richesse, la complexité et la modernité grâce à cet article qui est apparu dans le magazine Books sous le titre « Une Jane Austen dans le Japon médiéval à la cour de Kyoto, XIe siècle, le dit du Genji ». Merci beaucoup, Baptiste.
Merci à vous.